Les souris et les lettres.
Faire du latin et du grec des langues attractives pour les élèves, ne pas les marginaliser dans les cursus, ces objectifs, nous les trouvons légitimes. Cela signifie-t-il qu'ils sont des évidences pour tous, ou même qu'ils sont faciles à atteindre? Ces interrogations, mais aussi des propositions de réponse, vont maintenant être formulées dans notre rubrique intitulée « Le sujet du jour ». Prenant la forme d'une table ronde réunissant Marie Pacioni, Damien Briet et Thierry Bayard, ce rendez-vous va aborder la nécessaire évolution des pratiques pédagogiques permettant la découverte des langues anciennes. Thierry, vous souhaitez tout d'abord placer votre réflexion dans le cadre du collège.
Oui, effectivement. Il est difficile pour des élèves de 5e de concevoir une langue qui ne se parle pas. Ils se basent sur ce qu'ils connaissent déjà, leur langue maternelle, le français, qu'ils pratiquent, peut-on dire, naturellement, et essentiellement à l'oral, et sur la langue vivante qu'ils découvrent depuis l'école primaire, qu'ils découvrent avant tout à travers l'oral. Le latin et le grec, langues sans locuteurs, sont donc pour eux des objets linguistiques mal identifiés, difficiles à appréhender. Ce malaise des jeunes face à nos disciplines est à mon sens rendu visible par des remarques fréquentes au début de 5e. Les élèves, tout contents, viennent nous trouver en nous demandant comment on dit en latin « Joyeux anniversaire, bonnes vacances, joyeux Noël, bon week-end », comme ils peuvent le faire dans le cadre d'un cours de langue vivante. Quel n'est pas alors leur désarroi quand nous leur disons que certaines de ces expressions n'auraient pas vraiment de sens pour un latin, et donc ne se disent pas. Ces élèves qui venaient chercher des outils de communication, de conversation, repartent souvent avec l'idée que le latin n'est vraiment pas une langue vivante, et cette déception peut avoir des conséquences sur leur implication en classe par la suite. Mon expérience est une expérience de collège. Peut-être en va-t-il différemment en lycée. Je ne sais pas si tu as la même impression lorsque tu retrouves ces élèves en seconde, Marie.
On classe habituellement le latin parmi les langues mortes. Mais quoi qu'en disent certains, on peut aborder le latin au lycée, par exemple, comme une langue vivante. En début d'année, la tâche du professeur de latin consiste principalement à dresser un état des lieux des connaissances et compétences des élèves, d'homogénéiser le groupe en prenant appui sur les atouts parfois très variés de chacun d'eux. Mais il lui faut aussi susciter leur envie de poursuivre l'option, développer leur curiosité intellectuelle et leur montrer comment l'apprentissage de la langue latine et la connaissance des civilisations antiques constituent un atout pour leur parcours scolaire. Or, les collégiens qui décident de poursuivre l'option latin sont souvent peu nombreux. Et parmi les courageux qui acceptent de finir une heure plus tard que les autres, parmi les passionnés de mythologie et d'histoire antique, rares sont ceux qui envisagent sereinement la poursuite de cet enseignement. Ils sont en effet souvent persuadés qu'ils n'ont aucune maîtrise de la langue latine qu'ils considèrent comme une langue morte. Ils pensent, à quelques exceptions près, le travail de traduction et les apprentissages linguistiques comme insurmontables, et n'ont pas peur d'avouer avec un fatalisme parfois assuré « de toute façon, je suis nul en grammaire ». Or, en prenant appui sur une pratique bien vivante du latin, et en faisant rimer celui-ci avec modernité, on peut tenter de dépoussiérer l'image que les élèves pourraient en avoir, et surtout, leur montrer qu'ils sont tout à fait capables de se familiariser avec le fonctionnement de la langue. Pour cela, on peut s'inspirer notamment des pratiques de nos collègues de langue vivante et articuler l'enseignement du latin au même titre que celui de l'anglais ou l'allemand autour de 4 compétences. La compréhension et l'expression écrite, mais aussi et à part égale la compréhension et l'expression orale. Pour montrer aux élèves que si le latin est une langue ancienne, elle n'en est pas pour autant une langue morte, l'émission Nuntii Latini, proposée par la radio publique finlandaise IL, peut tout d'abord servir de support à l'élaboration d'une séquence inaugurale. Chaque semaine, en effet, cette radio propose dans la langue de Cicéron un bulletin qui résume les actualités et nouvelles internationales. Conspectus rerum internationalium hebdomalis est programma radiofoniae finicae generalis interarum orbe unicum, nous explique le slogan de l'émission. Ces brefs sont facilement accessibles au format numérique, en version audio ou textuelle. Ainsi, cela permet de proposer aux élèves des exercices de compréhension orale ou écrite, à même de leur permettre de revoir les bases du fonctionnement de la langue. L'écoute d'enregistrement, une fois passée la surprise d'entendre du latin, permet tout d'abord aux élèves de réaliser qu'ils sont tout à fait capables de comprendre globalement la plupart des brèves, forts qu'ils sont de leur connaissance des faits importants de l'actualité. Cette écoute peut s'effectuer dans un premier temps collectivement et ensuite individuellement, en laboratoire de langue, ou à défaut à partir de matériel de balado-diffusion. Le travail de compréhension sera mené grâce à un questionnaire à compléter, proposant par exemple des vrais-faux ou des questions à choix multiples, qu'il s'agit de justifier par des citations. Dans un deuxième temps, en utilisant les transcriptions écrites des enregistrements, il est possible de revoir les bases de la langue latine, le système des cas, l'ordre des mots dans la phrase, la morphologie verbale et nominale, tout en poursuivant le travail de compréhension globale, à partir cette fois d'un texte écrit. Des jeux étymologiques ou des exercices de mise en voix peuvent également être proposés à cette occasion.
Tu citais à l'instant le site Nunti Latini. Dans le même domaine, une radio allemande, Radio Bremen, propose également une synthèse hebdomadaire de l'actualité en latin. En plus, le texte est disponible également sous forme écrite, ce qui permet une exploitation différente en classe. Mais c'est vrai que la place du latin oral sur Internet va croissant. Plusieurs sites proposent en effet des lectures expressives de textes latins et grecs. À titre d'exemple, The Society for the Oral Reading of Greek and Latin Literature propose quelques extraits de textes latins et grecs en prononciation restituée. Il est intéressant d'utiliser ces ressources pour rentrer dans une lecture ou encore en conclusion d'un travail mené en classe. Effectivement, comme tu le soulignais, l'oral est un bon moyen de motiver nos élèves. Cependant, certains vont même jusqu'à utiliser exclusivement le latin pour les interactions entre le professeur et les collégiens dans la vie du cours. Ils calquent ici leur méthode sur ce que nos collègues d'anglais appellent le « classroom English », qui comprend toutes les expressions idiomatiques nécessaires dans la salle de classe. Sans aller jusque-là, car il me semble qu'on ne peut pas assimiler le latin à une langue vivante et que ce biais est méthodologiquement contestable, et ce d'autant plus qu'il éloigne davantage nos élèves de ce qui fait le cœur de l'enseignement, l'étude des textes latins, la répétition et la transposition de structures grammaticales à l'oral permet à des élèves qui mémorisent mieux ainsi de les retenir. Il m'est arrivé au collège, en 5e et en 4e tout particulièrement, d'utiliser cette méthode sans passer par l'écrit pour fixer, par exemple, le mécanisme du discours rapporté, en réactivant en même temps les connaissances sur la déclinaison avec le glissement des formes de nominatif à l'accusatif. De même pour la transposition voix active-voix passive qui fait manipuler le nominatif et l'ablatif.
Vous parlez depuis le début de textes modernes, d'approches visant à redonner au cours de latin une physionomie moins poussiéreuse. Mais n'oubliez-vous pas les textes et les auteurs de l'Antiquité, ceux que les programmes invitent à faire découvrir aux élèves antiquisants.
La discussion nous a en effet conduit à mettre l'accent sur tout ce qui pouvait dynamiser, redynamiser le cours de latin, tout ce qui pouvait créer une dynamique de classe propice à l'acquisition des connaissances et compétences qu'il nous faut transmettre. C'est un point non négligeable. Le problème posé par la lecture des textes authentiques est un peu différent, mais à mon sens, on pourrait reprendre les propos que Marie tenait tout à l'heure à propos de ses élèves de seconde, paniqués à l'idée qu'ils sont nuls en grammaire. Comment leur donner la confiance en eux, nécessaire pour devenir de véritables lecteurs de latin? Comment les amener à s'orienter progressivement dans un texte qui leur semble tout d'abord incompréhensible? Soyons même plus provocateurs. Est-il possible et souhaitable de mettre des élèves dès leur première année de latin devant des textes originaux? Les élèves sont-ils capables de comprendre autre chose que des textes arrangés, recomposés ou au mieux largement expurgés de tout ce qui peut freiner leur compréhension? Dans ce domaine, le choix judicieux des supports me semble la première réponse à cette vaste interrogation.
Et la réflexion que mène notre collègue Damien Aubryet sur les rapports de l'épigraphie à l'étude de la langue latine est à cet égard tout à fait passionnante. Pourriez-vous, Damien, nous décrire votre projet ?
Oui, bien sûr. Cette proposition de séquence s'inspire d'un travail que Véronique Mestre-Gibault, collègue de lettres classiques dans l'Académie de Grenoble, a mis en ligne sur le serveur éducatif Helios, langues et cultures de l'Antiquité. Ces pages, intitulées « Sit tibitera Lewis », proposent, dans le cadre d'une réflexion sur la lecture dynamique, un exemple de lecture méthodique fondée sur des épitaphes. Suite à un travail de recherche sur le patrimoine gallo-romain dans les musées de la région centre, mené dans le cadre de l'action culturelle à l'inspection académique du Loiret, j'avais souhaité mettre en pratique l'expérience originale de cette collègue, tout en recentrant mon propos sur la très belle collection d'épitaphes réunies au musée du Berry à Bourges. Il est rare, en effet, qu'un musée de province présente autant de stèles funéraires, d'une aussi belle facture, offrant souvent aux visiteurs à la fois l'épitaphe et le portrait sculpté du défunt. Gérard Coulon et Simone Detz ont récemment publié une présentation de cet atelier de sculpture dans la cité des Bituriges. Il est à souligner que la qualité des photographies de Claude-Olivier Daré permet une première approche pédagogique. Le travail proposé aux élèves dans le cadre de cette séquence se déroule tout autant en classe qu'au CDI dans le cadre de l'apprentissage à la recherche documentaire. Dans un premier temps, Seul le texte des épitaphes et des nouveaux élèves, l'accès à la stèle, au monument funéraire, est réservé pour la visite pédagogique du musée en fin de séquence. Je propose aux élèves différentes activités de découverte ou de révision de notions abordées en classe de 5e, année durant laquelle nous avons travaillé la géographie des enfers et leur divinité. On s'intéresse tout d'abord à la situation géographique de ces inscriptions au travers de deux sources anciennes de nature différente. Tout d'abord, une carte routière, la table de Peutinger, accessible sur Internet, avec le calcul de distance en lieues gauloises et en milles romains, sur différentes villes gallo-romaines. Puis, par la découverte plus particulière de la cité des Bituriges, avec la lecture et la traduction de quelques extraits du Bellum Gallicum. Vient ensuite la lecture, la transcription, puis la traduction de ces inscriptions funéraires. Les épitaphes sélectionnées dans le musée sont volontairement des textes brefs, répétitifs, mais qui présentent quelques difficultés spécifiques à l'épigraphie. Citons tout d'abord l'absence de ponctuation, mais également la présence de ligatures ou lettres combinées, et enfin, évidemment, la présence d'abréviations. À cet égard, un tableau des principales abréviations est distribué aux élèves pour leur permettre de débuter leur lecture personnelle. Cette première approche nécessite un véritable décodage. La signification des abréviations, naturellement, puis le repérage par les élèves de mots connus permettent par la suite de s'intéresser à la dénomination ou à l'étude des noms propres. Quel est le nom de chacun des défunts? À quel cas grammatical est ce nom? Repérage des éventuels liens familiaux. Pour terminer par la lecture des voix qui parlent dans chacune de ces inscriptions. À qui s'adresse le message? Ces séances en classe sont approfondies au CDI au travers de deux points, par une initiation à la recherche documentaire sur les types de pratiques funéraires rencontrées chez les Gallo-Romains, mais également sur la découverte de différents monuments funéraires utilisés dans la Gaule romaine. Et là, naturellement, on élargit la recherche en ne se limitant plus aux Bituriges. D'un point de vue grammatical, il s'agit de redécouvrir, en début d'année de quatrième, la valeur des cas grammaticaux, au travers peut-être d'une réflexion sur le sens du mot « dédicace ». La révision de l'indicatif parfait semble naturelle à la lecture de ces épitaphes. L'enrichissement lexical est facilité dans un travail au CDI ou même en classe par la découverte progressive du Gaffio en ligne sur le site Lexilogos. Le but ultime de ce travail est de proposer aux latinistes de quatrième une sortie pédagogique peu ordinaire, puisqu'elle les conduit, par un travail sur des objets archéologiques, à réfléchir à la thématique de la mort et de la mémoire dans une civilisation ancienne, tout en approfondissant des faits de langue et en enrichissant leurs connaissances lexicales en latin. Afin de mettre les élèves en situation de jeunes épigraphistes et de les rendre acteurs du cours de latin dans le cadre du musée, je divise la classe en plusieurs groupes qui sont chacun responsables de la présentation d'une stèle à leurs camarades sous l'œil attentif et amusé du conservateur. Pouvoir observer, même rapidement, plusieurs dizaines de stèles dans le cadre du musée fournit l'avantage de ne pas dissocier le monument de l'inscription, voire d'envisager un travail d'art plastique au travers de la typologie des stèles funéraires des Bituriges. L'évaluation finale donc permet aux élèves de réinvestir les connaissances acquises lors de la séquence réalisée en classe et au musée. À ce sujet, je propose à chaque groupe de rédiger une épitaphe en latin à partir d'un lexique thématique que je leur fournis en prenant appui sur le recueil très stimulant de Daniel Porte, Tombeau romain, anthologie d'épitaphes latines. Il s'agit alors pour chaque groupe de choisir la mort d'un personnage en français, puis de trouver son correspondant latin dans une liste qui leur est donnée. Attention! À quel cas faut-il mettre tel ou tel mot? Est-il question du dédicataire ou bien du dédicant? Aura-t-on un datif ou bien plutôt un nominatif? Sont ensuite attendues les circonstances du décès, Puis, on attend enfin les tria nomina du dédicataire ou ceux du dédicant. Quelle est la relation ou sa parenté avec le mort ? Viennent par la suite la formule de clôture. Il en existe plusieurs découvertes lors de la lecture des stèles. Et donc, les groupes choisiront chacun celle qui leur convient le plus. Enfin, et cette dernière partie n'est pas à négliger, me semble-t-il, c'est le dessin de la stèle et le portrait du défunt. Selon quels critères, à ce moment-là, le collègue d'art plastique peut nous être d'un grand secours, à la fois durant la séance comme accompagnateur au musée, et puis également lors de l'évaluation de cette dernière partie. Les productions des élèves sont alors exposées au CDI.
C'est vraiment un projet passionnant. D'autant qu'il permet tout à la fois un accès à la langue, à une langue non reconstituée et à des sources épigraphiques et archéologiques dont nous disposons dans notre propre académie. En outre, il s'ouvre sur d'autres disciplines, ce qui met, c'est toujours un point intéressant, le latin au centre des apprentissages et donne une véritable visibilité à notre option. Pour ma part, sans m'être lancé dans un projet si abouti, je me suis rendu compte qu'il était bien d'aborder en quatrième le thème des spectacles, et dans mon cas des spectacles de gladiateurs à travers une sélection d'inscriptions. Le site Noctes Gallicanae est à cet égard remarquable et j'en recommande la visite à tous ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Non seulement ces textes permettent de travailler sans traduction, car leur taille est réduite et le vocabulaire revient souvent d'une inscription à l'autre, mais ils offrent un accès incomparable à toutes sortes de réalia et répondent à des questions que se posent et donc nous posent souvent les élèves au cours de cette séquence. Les gladiateurs avaient-ils une femme, des enfants ? À quel âge mouraient-ils ? Étaient-ils célèbres ? De plus, comme ces textes sont courts, les élèves en lisent plusieurs au cours d'une même heure et ont l'impression plaisante pour eux d'avancer. Ici, l'étude de la langue, les cas en particulier, est indispensable pour identifier les personnages. On remarque également que la traditionnelle grammaire passe d'autant mieux auprès des élèves qu'ils perçoivent qu'elle est nécessaire pour comprendre le texte qu'ils ont devant eux et qu'ils veulent savoir traduire car ils sont impatients de découvrir de nouvelles informations sur le monde de la gladiature. Lecture, étude de la langue et civilisation ne peuvent être dissociées. Il faut absolument que les collégiens comprennent que les connaissances de langue ne sont pas déconnectées du reste de leur travail et que tout ce qu'ils font dans le cadre de notre cours vise à développer chez eux des compétences de lecteur. Enfin, dans ce projet, le vocabulaire s'acquiert pour ainsi dire tout seul, puisque les mêmes mots reviennent d'une inscription à l'autre. Mes élèves perçoivent donc immédiatement l'intérêt qu'il y a à le mémoriser pour comprendre plus vite l'inscription suivante.
Le retour des mêmes mots, ce qui revient à dire, Thierry, qu'on ne mémorise vraiment que ce qu'on voit souvent.
C'est ici à la fois le problème et en partie la solution. Nous constatons tous, quelle que soit notre expérience et les méthodes que nous adoptons, une difficulté croissante des élèves à mémoriser l'effet de langue et le vocabulaire. Or, nous venons de le dire, il n'existe aucun apprentissage efficace dans notre discipline sans cette faculté de retenir et de savoir réutiliser à bon escient des connaissances grammaticales et lexicales.
Alors, quelle est donc la solution ?
Eh bien, pour moi, une solution raisonnable me paraît être de nous interroger sur notre façon d'enseigner la grammaire à nos élèves. Si c'est la fréquence avec laquelle un collégien est confronté à un problème grammatical donné qui conditionne son appropriation de la notion, il faut, dans notre pratique pédagogique, en tirer deux conséquences. D'abord, il faut confronter le plus souvent possible nos élèves à des textes latins, à la langue latine. Plus ils auront lu de latin, plus ils auront croisé les structures grammaticales que sans cela, nous nous efforçons en pure perte de leur faire retenir. Ensuite, il faut certainement renoncer à leur faire apprendre ce que Dominique Auger, dans son ouvrage « Refonder les langues anciennes, le défi de la lecture », appelle une grammaire de thème, dont la progression correspond à la nécessité de produire des phrases latines. Dans la mesure où nous voulons faire de nos élèves des lecteurs, et ce, dès le début de leur scolarité, nous devons repenser la grammaire que nous proposons à leur observation et réfléchir à une logique fréquentielle. Pourquoi, par exemple, commencer l'étude des temps latins par le présent, alors que les textes que nous abordons sont le plus souvent des récits, et qu'en outre, le parfait a l'immense avantage d'être un temps extrêmement facile à construire et à repérer ? Pour ma part, j'ai souvent constaté que les faits de langue que les élèves avaient mémorisés, sur le long terme, étaient ceux dont ils avaient continuellement à se servir, désinences verbales ordinaires à l'actif, troisième personne du singulier et du pluriel au passif, pour ne citer que le domaine de la conjugaison. Enfin, pour ce qui est de l'acquisition du lexique, j'essaie de travailler dans trois directions afin d'assurer la mémorisation à long terme des savoirs par les élèves. D'abord, la mémorisation tout à fait nécessaire des mots outils, comme les conjonctions de coordination, de subordination ou les prépositions, mais aussi des principaux verbes simples, une quarantaine suffit. Pour ce faire, j'utilise le site Quizlet, qui permet aux élèves de travailler leur vocabulaire de façon ludique sur Internet, grâce à des listes que je leur fournis et à des exercices de mémorisation progressifs. C'est ensuite, deuxième point, par des remarques répétées tout au long des différentes lectures que je tente d'ancrer chez eux le réflexe d'associer les mots latins qui sont formés sur la même racine, un nom, un verbe, un adjectif, ou encore le verbe simple et le composé. Il s'agit ici d'une structuration interne à la langue latine. Enfin, dernier point, j'essaie de tisser une seconde structuration, verticale cette fois-ci, entre le mot latin et ses dérivés dans d'autres langues, en français en particulier. Pour ce type d'exercice, j'utilise assez souvent des grilles de mots croisés ou de mots mêlés que je crée à l'aide du site internet PuzzleMaker, puis que je mets sur polycopier. Les mots mêlés permettent de travailler le lexique. Mes élèves disposent alors des mots latins dont sont issus les termes français qu'ils auront à retrouver et des définitions de ces mots, ou encore parfois d'une courte phrase dans laquelle ces mots sont employés en contexte. Je me suis souvent rendu compte que cet exercice était formateur, car il amenait les élèves à s'interroger sur la formation des mots, en particulier sur la présence éventuelle d'un préfixe ou d'un suffixe.
Ainsi, chers auditeurs, à travers les interventions de mes trois collègues lors de cette table ronde, vous avez pu constater qu'ils ne mésestiment pas les difficultés rencontrées par le professeur de lettres anciennes pour faire apprendre ces langues particulières à leurs élèves, aussi bien en collège qu'au lycée. Vous avez aussi également pu remarquer que ces difficultés ne sont pas une entrave, mais plutôt une stimulation pédagogique, lorsqu'on les cerne avec clairvoyance pour trouver les procédés à la fois méthodiques et originaux en guise de solution.